Ce 22 septembre, c'est le premier jour de l'automne. Mais pour nous, c'est tout le mois de septembre qui est le temps de la création. Depuis le 1er septembre, qui est la journée de prière pour la sauvegarde de la création, jusqu'au 4 octobre, qui est la fête de Saint-François d'Assise. Et je voudrais anticiper un peu ce jour-là, c'est-à-dire la fête de Saint-François, où on propose d'ailleurs dans certaines églises, dans certaines paroisses, il y a une bénédiction des animaux. Ça a toujours été mon rêve de faire ça ici, mais les escaliers sont un peu abrupts pour les plus grands des animaux. Je voudrais juste évoquer avec vous les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux. Surtout les chiens et les chats, il faut quand même en prendre conscience à quel point les animaux domestiques ont pris une place dans notre vie qui est considérable. Considérable pourquoi ? D'abord pour leur affection, en particulier contre la solitude pour beaucoup de personnes, mais même pour l'affection qu'ils donnent, et ce qu'on dit aussi souvent, pour leur confiance. Vous avez sûrement déjà entendu des personnes qui vous ont dit « Moi, mon chien au moins, il ne m'a jamais trahi. » Il ne m'a jamais trahi, jamais déçu, jamais abandonné. Et on comprend que le chien est aujourd'hui pris ce titre de meilleur ami de l'homme. Par le passé, il était octroyé dévolu au cheval. La Bible, elle est réservée sur l'un comme sur l'autre, sur les chiens comme sur les chevaux. Pourquoi sur les chiens ? Parce que du temps de la Bible, les chiens étaient majoritairement errants. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on se promenait, on avait un bâton. Et quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit de prendre un bâton. Pourquoi ? À cause des chiens errants. Tandis que le cheval, lui, il était hors de prix. Et donc c'était non seulement un symbole de richesse, mais un symbole d'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle, dans son entrée messianique à Jérusalem, Jésus monte sur un âne. Pour, effectivement, en signe d'humilité. Le chat, il est absent de la Bible. Et on dit généralement que c'est pour se démarquer des Égyptiens chez qui il était adulé. Non, s'il y avait un animal qui trouve grâce dans la Bible, c'est en dehors de l'agneau, des moutons, ce sont les oiseaux. De la colombe jusqu'à l'aigle, c'est-à-dire du déluge jusqu'à Saint-Jean. Quand on regarde autour de nous, on voit que la plupart des gens, quand on les interroge, sont, on va dire quoi, soit chien, soit chat. Soit les deux, soit aucun des deux. C'est un sujet qui est assez clivant, alors il faut le manier avec délicatesse. D'ailleurs, on l'a vu même, y compris dans l'Église, quand le pape est arrivé début septembre en Indonésie, on a vu les réactions quand il a dit, il a admiré, il a rendu hommage dans ce pays, il a dit, voyant toutes les familles nombreuses, 3, 4, 5, 6 enfants, il a dit, c'est magnifique, il a dit, c'est un exemple pour tous les pays. Et l'Europe l'a bien compris, ça vise ceux où, je cite ce que a dit le pape, certaines familles préfèrent avoir un chat, un petit chien, pas un enfant. Il disait, c'est pas normal. La différence, une des grandes différences entre le chien et le chat, c'est que le chat ne vient pas quand on l'appelle. Je mets en dehors des heures de repas. Mais quand on l'appelle, c'est lui qui décide. Tous ceux d'entre vous qui sont familiers des chats le savent. C'est lui qui décide. On le dit et c'est vrai. Le chat, par nature, il est plus indépendant. Surtout quand on l'appelle et quand il y a des personnes qui ne connaissent pas qui l'air. Non seulement il est un peu indépendant, il est prudent. Or, venir quand on nous appelle, c'est la base ou c'est la clé de la confiance. Pour les mariages que je célèbre, on m'a raconté cette semaine les réactions de fureur d'un de mes confrères, un curé, parce que les mariés avaient suggéré, ils avaient dit « Est-ce que ça pourrait être notre chien qui amène les alliances ?» Alors, il avait dit « Pourquoi pas un drone ?» Non, il n'en pouvait plus. Moi, on me l'avait déjà proposé aussi, mais ça m'avait fait sourire. Mais bref, pour les mariages que moi je célèbre, je demande quelques semaines avant aux témoins, je leur dis, envoyez-moi par mail votre témoignage. Dites-moi ce que vous savez, comment vous considérez les futurs mariés, quelles sont leurs qualités, qu'est-ce que vous aimez chez eux. Et comme ce sont toujours des amis, presque toujours en dehors des frères et sœurs, ils disent, Et c'est systématique. La qualité qui revient le plus souvent, c'est ils peuvent compter sur lui ou sur elle. Il est là ou elle est là quand on a besoin de lui ou quand on a besoin d'elle. C'est ça un ami. Qu'est-ce que c'est un ami? C'est la personne qui est présente quand vous en avez besoin. Et jeudi soir dernier, il y avait la première réunion de préparation au mariage. Je l'ai dit aux fiancés, je l'ai dit, c'est vrai du mariage. On épouse quelqu'un en qui on a confiance, sur qui on peut compter. Et c'est quand même la première chose à vérifier avant de l'épouser. Est-ce qu'on peut compter sur lui ou épouser son aile? Et pas seulement vous. Est-ce que les autres ont confiance en lui ou en elle? Je leur dis même, n'épousez pas quelqu'un qui n'aurait aucun ami. Ce serait quand même pas bon signe. Vous pourriez effectivement effacer sa solitude, mais ce ne serait pas bon signe. La fidélité en amitié, c'est évidemment pas la même qu'en amour, que dans un couple, que la fidélité conjugale, mais ça y prépare, évidemment. N'épousez pas quelqu'un qui n'aurait pas d'amis, mais n'épousez pas quelqu'un qui n'en aurait beaucoup trop. Beaucoup trop, qui pourrait pas être de vrais amis. C'est une bonne question. Combien de vrais amis est-ce que vous avez? De vrais, sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances. Après la liste, là, aujourd'hui, dans votre tête, de vrais amis. Combien est-ce qu'on peut avoir dans sa vie de vrais amis? Est-ce qu'on peut dire que parmi ses disciples, Jésus en a appelé 12 pour qu'ils soient ses amis, en qui il aurait particulièrement confiance, même si, évidemment, l'un a trahi, l'autre a renié, a menti, presque tous se sont enfuis. C'est pas tant qu'on peut être déçu par ses amis, mais en réalité, on ne peut être trahi que par un ami. C'est-à-dire qu'une personne en qui on avait confiance. Dans l'évangile qu'on a entendu, Jésus appelle les 12 et ils viennent. Il les appelle, ils viennent. Ça, nous le savons tous, particulièrement les personnes qui travaillent, si vous ne venez pas quand votre patron vous appelle, on risque toujours des ennuis. Mais Jésus les appelle, pourquoi? Parce qu'ils savaient le sujet de la discussion, ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand. Et non seulement ils appellent, mais il fait venir aussi un enfant. Viens, viens, il dit, viens. Non. Et l'enfant vient parce que l'enfant, il a naturellement confiance en Dieu. Il a naturellement confiance en Dieu et le rôle des parents et le rôle des adultes, c'est de ne pas le dissuader. C'est d'encourager cette confiance naturelle. Il vient de toute façon quand il a besoin, comme nous tous, d'être nourri, mais surtout d'être protégé, d'être consolé, d'être instruit, réconforté. Et dans ces cas-là, quand il a peur ou quand il est triste, il se jette dans les bras de ses parents. L'esprit d'enfance, c'est un esprit de confiance. Alors on va dire, est-ce que ça ne dure pas? Normalement, ça doit pouvoir durer, sauf si on s'est perdu soi-même, ou sauf également dans certains cas, quand on n'a pas bonne conscience, quand on a la conscience chargée. Voyez ici, dans l'évangile, les disciples ont peur d'interroger Jésus sur ce qu'il vient de leur annoncer, sur la passion. Et ensuite, lorsque c'est lui qui les interroge, sur leur solidarité, ils n'osent pas répondre. Osez demander quand on ne comprend pas. Osez avouer quand on est gêné, même quand on a un peu honte. La confiance, elle passe par la parole. La confiance suppose que les personnes aient le même langage, le langage de la confiance, le langage de l'amour. Posez-vous la question ces jours-ci, aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu a confiance en vous? Il y a une phrase célèbre de Saint Philippe Néri qui disait « Seigneur, méfie-toi de moi. C'est pas très loin de la première réaction de Pierre au début de l'évangile de Saint-Luc, quand il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Il ne se sent pas digne. Et après 3 ans passés avec Jésus, à la fin de l'évangile de Saint-Jean, Pierre peut s'exclamer « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Et nous, nous devons effectivement pouvoir arriver à cette même affirmation, profession de foi. Dieu nous fait confiance. À chacun d'entre nous, Dieu nous donne sa confiance alors qu'il sait tout. Il sait nos faiblesses, il sait nos limites, il sait nos manquements, il sait notre histoire, il sait nos blessures. Mais il nous fait confiance parce qu'il est toujours là avec nous. Il est toujours présent. Ça ne veut pas dire que il exauce nos prières quand on vient le voir ou sur un claquement de doigts, en passant. Ça veut dire que cette relation que nous devons avoir, que nous pouvons avoir chacun avec le Seigneur, elle se construit lentement, patiemment, fidèlement, résolument. Et cette relation avec le Seigneur, elle est inséparable de notre relation les uns avec les autres. Voilà ce dont nous devons prendre conscience. Voilà ce qui doit porter notre prière chaque jour. Allons prier chaque jour, allons chaque dimanche à la messe. Parce que le signe de la confiance, c'est cela, venir quand on nous appelle. Et même au plus fort, s'agissant de Dieu, venir parce que Dieu nous attend.